La belle Madame Levasseur, chapitre 14. Il y a de certaines cruelles heures en la vie qui font à l'âme des cassures d'années, tels les deux jours et les deux nuits que Daniel passa debout auprès de son père mort. Il voulut y être seul, et ce fut la première manifestation d'être qu'il donna, après que, sans résistance aucune et comme passivement, il eut suivi les recommandations de sa belle-mère. Or son oncle, qui, mandé aussitôt, ne put que constater la fin, il ne consentit à voir personne, ni Bérose, ni Cécile, ni Jeanne même, bien qu'il ne soupçonnât rien de la part qui lui revenait dans la catastrophe, et demeura tout ce temps tête à tête avec ce cadavre, dont la face éclatée d'apoplexie, ravagée d'épouvante, avait une hideur d'assassiné. Debout au pied du lit, grave et morne, il la regardait, cette face, sans châtier les yeux, sans supplicier la conscience. Le même homme, qui avait eu cette défaillance de rester chez son père quand il en aimait la femme et se savait aimé d'elle, le même homme, à la jalousie duquel Jeanne avait pu arracher ce dernier rendez-vous qui devait avoir des conséquences si terribles, se retrouvait fort et haut devant son parricide. Il le revendiquait entier, refusant même de se reconnaître des complices dans la provocation de sa belle-mère et ce qu'il croyait une fatalité effroyable. Il le jugeait froidement, l'inventoriait curieusement, haineusement, ainsi que le crime d'un autre et d'un autre ennemi, et n'y trouvait pas, malgré des recherches implacables, de châtiment pire que de vivre avec ce cadavre vivant et dévorant au fond de lui. Aussi s'en remplissait-il le regard. Il le touchait, le respirait, s'efforçant, non pas de le graver dans sa seule mémoire, mais de se l'entrer, de se l'incorporer dans la peau. Un remords, c'était trop peu. Il entendait que tout en lui fût remords, et que son sang, comme sa pensée, charria cette douleur toujours. Parfois, cependant, regimbait la nature, cette nature veule, qui est l'homme même, et que les rigueurs du juge étaient impuissantes à durcir. Penché sur le lit, il saisissait à deux mains cette pauvre tête glacée, et imprimant ses lèvres dans ce front qui avait déjà l'odeur croupie des chairs sans âme et des os sans courant, il implorait ce rien qui gardait l'aspect de son père, lui demandait pardon, et désespérément criait dans ses oreilles sourdes « Ne le crois pas ! Oh, ne le crois pas, je t'en supplie, ce n'est pas vrai !» Alors c'étaient des prières vibrantes, des superstitions qui lui revenaient avec des mots, des mouvements d'autrefois. Il se mettait à genoux, battait sa faute, s'accusait de son péché dans sa langue d'enfant pieux. Son péché, c'est-à-dire sa vie depuis son retour. Ce mois surtout qu'il avait vécu côte à côte avec Jeanne, ses moindres erreurs de pensée, jusqu'à des rêves qu'il se rappelait. Puis des apostrophes colères au maître des choses qui avait eu cette cruauté de lui faire tuer son père, à lui qui n'était guère coupable que d'aveuglement et de faiblesse. « Oh, réveillez-le, par pitié, réveillez-le, rien qu'une minute, que je lui dise !» La dernière nuit, il eut une hallucination causée par le jeûne où il s'était condamné, et le vertige d'une perpétuelle ronde d'idées pareilles autour du même objet. Son père était debout devant lui, et d'une voix dure lui ordonnait « Allons, défends-toi, je t'écoute !» Et lui avait beau se défendre, plaider sa cause, l'étaler, la développer, avouer même cet amour jaloux qu'il avait jeté à l'appel de Jeanne, sous cette menace que, s'il n'y allait pas, un autre, et cet autre, il le savait bien, quoiqu'elle ne l'eût pas nommé, y viendrait au lieu de lui. Beau jurer que cet amour avait toujours été respectueux et chaste malgré les apparences. La voix dure répétait, après chaque argument, après chaque serment, « Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. » Sitôt les funérailles, où la moitié de Paris assista, se chuchotant à l'oreille les très mystérieuses circonstances de cette mort, qui n'était, bien entendu, mystérieuse pour personne, chacun ayant la prétention de les avoir percées. Daniel prit congé de sa belle-mère, avec le ferme dessein de ne la revoir jamais. Congé d'une politesse soucieuse, sans beaucoup de paroles, durant lequel pas un n'osa dire le fond de sa pensée, ni elle, là bientôt que lui soufflait son espoir, ni lui, l'adieu que sa conscience lui dictait. Son premier soin, dès qu'il eut quitté la rue Malesherbes, fut de régler son existence sur sa nouvelle position. De l'héritage, le tiers de la fortune paternelle, Jeanne ayant l'usufruit du reste, sous condition qu'elle ne se remarierait pas. Il entendait ne rien garder, éprouvant une rancune, un dégoût de meurtrier contre ces millions qui lui coûtaient son père. En conséquence, il arrêta son budget d'après la petite fortune qui lui venait de sa mère, un peu plus de 200 000 francs. C'était environ le nécessaire, sauf à ne plus raffiner ni paraître. Mais peu lui importait. Ce dont il souffrit davantage, lui, l'artiste aisé, qui toute sa vie avait traité de haut l'argent, ce fut de cette contrainte de lui parler chapeau bas, de le compter, de le toucher, de s'en salir l'esprit et les mains. Il s'y astreignit pourtant, exagéra même ce respect, ce calcul, dont d'autres que lui devaient profiter, et goûta dans ses menus sacrifices cette sorte de plaisir douloureux qu'on éprouve à se priver, à se meurtrir ensuite d'une grande faute ou d'un grand chagrin. Un appartement se trouva libre dans la maison qu'habitaient Bérose et son frère, rue Jean Bar. Il s'y installa, lui et ses chers meubles de souvenirs, et prit pour tout faire une certaine Gertrude, à lui recommandée par son oncle, qui avait soigné et enterré le directeur sulpicien qu'elle servait. Vieille mulhousienne de tournure et d'accent comique, tendrement bigote et grognonne, qui le divertit parfois avec ses catéchisations entêtées, les maigres, féroces où elle le condamnait. Par la raison, disait-elle, que n'allant jamais à l'église, il lui fallait au moins chener en gonze-gonce. Puis les primes bourrasques d'âme calmées, lorsque sa douleur, de même qu'une lie, se fut logée, déposée dans le profond de lui-même, il se remit au travail. Ayant renoncé aux œuvres légères, décliné les offres des éditeurs, des directeurs de concerts ou de théâtre, que le joli succès de son opéra comique lui valut, tâtonné longtemps autour d'un oratorio biblique dont l'odeur de siècle, la poésie de nature le tentait, il s'arrêta au choix d'une messe funèbre qui aviverait mieux cette cicatrice d'âme qu'il ne voulait pas guérir. Et ce fut comme un calice, un vêtement de morsure qui ne le quitta plus. La tragédie de son crime qu'il notait, qu'il vivait avec des jouissances cruelles de sectaire. La nuit, il en rêvait les morceaux à sa fenêtre, ouverte sur le jardin d'un hôtel proche, dans cette douceur de pensée que la chérie était là, le voyait, l'approuvait de son étoile. Les premiers jours, il ne s'était pas hasardé à lever les yeux vers elle, dans l'affaissement de honte et la désespérance basse où il gisait, terrassé. Il ne l'osa que petit à petit, après des semaines de purifiantes épreuves, lorsque, à force de s'être détaché d'esprit de ce misérable amour, nettoyé la mémoire de toutes ses souillures de souvenirs, d'avoir enfin rajeuni, renouvelé l'étoffe même de ses pensées, il se crut le droit de regarder en haut. Et ce petit point de feu qu'il avait retrouvé en s'orientant comme jadis et qui chaque soir revenait se poser à la place de la veille, devint un être idéal qui le dirigeait, le punissait, le récompensait, étant en même temps la direction, la punition, la récompense. Le vieil homme faisait-il mine de reparaître? Une pente d'idées l'emportait-elle vers les choses défendues? Il se disait à lui-même « Tu seras privé d'étoiles, prends garde !» Et s'il y avait des nuages au ciel et que la petite île de lumière fût cachée, il pensait que quelque chose, qu'il ne se rappelait pas, lui avait mérité cette absence. Le matin, il écrivait ses rêves de la nuit. L'après-dîner, les orchestrait à mesure, sans bouger de sa chambre, s'imaginant que, quand il aurait fini, la cuisante mémoire de son père en serait désarmée et qu'il lui pardonnerait. Le monde n'existait plus pour lui, et sa seule compagnie était les grogneries théologiques, les « alors Gomza »,« monsieur et adé en gonce-gonce » de Gertrude, et les « remplants-plans » de Bérose, dont le cabinet de travail n'était séparé du sien que par une mince cloison, et qui lui tambourinait dans le mur des « bonjours ». Sa seule distraction, les visites de Bérose, qui ne sortait, ne rentrait pas une fois qu'il ne vint voir celui qu'il nommait gentiment « son malade ». Daniel lui avait tout confessé. Tout, du moins ce qui lui appartenait du secret malfaisant de sa vie, dans un besoin très humain d'absolution et de pitié. La pitié lui était acquise d'avance, le journaliste étant de vue trop claire et de métier trop perçant pour n'avoir pas deviné depuis bel âge ce que Daniel croyait bien enseveli sous de durs silences. Mais cette marque d'ouverte amitié fondit davantage leur liaison. Rien ne rapproche mieux que l'aveu d'une faiblesse. Se faire petit devant une haute nature, c'est la pencher vers soi. Et désormais, à l'affection profonde de Bérose, s'ajouta comme une maternité. Son coup de sonnette était le signal de la pause. Ayant essuyé sur le tapis de l'entrée ses airs d'ancêtre avec ses bottines sérieuses, il arrivait chez Daniel, du rire et de la jeunesse plein les poches, toutes les économies d'une nuit ou d'une journée solennelle. « Voyons, petit Mozart, disait-il, assez pianoté comme ça, ferme ton pléiel. Je ne peux pas voir ça ouvert sans penser tout de suite à une vieille Anglaise qui m'a beaucoup aimé. Une bouche comme ça avec un clavier, dedans, brrr. Ferme ton pléiel, milady, ferme ton pléiel, et amène la dextre que je tâte le pouls. » Puis, gravement, ayant consulté l'artère, examiné la langue et fait à son malade les questions les plus saugrenues du monde, il ordonnait une cuillerée de sirop de calembour à prendre avant le repas, quelques grains de folie, qu'il appelait des grains de santé, ou tout autre remède comique qu'étant l'apothicaire, comme il était le médecin, il se chargeait d'administrer lui-même, allongé en sultan sur un canapé, une pipe de bois aux lèvres. Pipe très mystérieuse, qu'il ne fumait que seul chez lui ou chez Daniel, et que par prudence, de peur que sa respectabilité n'en pâtît, il renfermait ensuite, de même qu'il renfermait ses 23 ans. Force était bien alors de se mettre à l'unisson de cette gaieté plantureuse, de se dérider, de s'épanouir à ce soleil de vie, de blagues, de mousse parisienne qu'il apportait du dehors. Quelquefois, il parvenait à débaucher Daniel, à le sortir, l'emmenant au bois, au champ, dans un but d'hygiène qu'il habillait d'une raison de service personnel, disant « Tu ne voudrais pas m'accompagner aujourd'hui ? Tous les camaros m'ont planté là. Je suis seul avec mon déshonneur. » Lorsque ces besognes nombreuses de secrétaire maître Jacques le retenaient qu'est Voltaire, il chargeait son frère de l'intérim et l'envoyait promener Daniel à sa place. Une figure, ce Bérouge. Des yeux de myope illuminés dans un long visage blême à profil de médaille. Point de barbe, mais des tempêtes de cheveux noirs. Un corps aiguisé et par là-dessus un grand paletot noisette, paletot de tout mois, non plus d'été que d'hiver, mais qui habillait de telles ardeurs de sang et de telles flammes de pensée qu'hiver ou été, il flottait comme un vieux drapeau autour d'une hampe mince. Il parlait peu, d'une voix douce, qui jurait avec des férocités de langue jacobine. Lisait et écrivait beaucoup, en revanche, faisant presque à lui seul deux journaux, la plèbe et le drapeau noir. Sans compter les feuilles de province, où il correspondait dans un style implacable, lui, fils de bourgeois, contre les bourgeois. Gagner gros à ce métier, mais donner tout aux grèves, aux comités ou aux fédérations, et aurait vécu en Diogène si Bérose n'eût été là. Mais il était là, Bérose. C'était lui, comme aîné, qui ordonnait le ménage, lui qui comptait avec la bonne, lui qui commandait les repas. Et il fallait voir ces ruses qu'il avait pour rompre les jeûnes spartiates de son sans-culotte, mettre de la viande dans ses légumes et du vin dans son eau, ajouter une couverture à son lit, une doublure d'étoffe chaude au par-dessus noisette et troquer des bottines à trous contre des bottines neuves. Tout passait d'ordinaire grâce à la myopie et aux distractions du cadet, toujours un peu dans les espaces. Parfois, cependant, il s'apercevait de quelque chose, et c'était des chamailleries à pouffer, celui-ci accusant celui-là de le vouloir embourgeoiser, comme lui, vil capitaliste qui avait des obligations dans son tiroir. Pouah ! Mais patience, il rendrait gorge un jour. « J'espère bien que non !» ripostait Bérose. Et Bérouge de l'appeler « vendu, mangeur de peuple ». Et Bérose de répondre par un joyeux défilé de noms en « iste », « collectiviste »,« nihiliste », »,« terroriste », »,« herboriste ». « Je te ferai guillotiner, tu sais !» finissait le cadet, que ses lazzi piquaient dans le vif de sa belle foi d'apôtre. « J'y compte bien !» répondait l'aîné. Mais, en attendant, citoyen frère, c'est nous qui sommes les princesses et les mamans, ajoutait-il en lui sautant au cou, ce qui avait le don d'exaspérer Bérouge, dont les tendretés d'âme s'enveloppaient jalousement d'une cuirasse de doctrine. Telle était pourtant cette généreuse nature qu'il ne se révoltait point quand son frère le priait d'accompagner Daniel, un rentier, double cause de haine ou de mépris. Car dans sa république, à lui, république idéale et bestiale, sorte de ferme immense sous l'état fermier, point n'entrait de ses non-valeurs. « Il faut aller balader ton bourgeois, » disait-il. « Bon, on y va. » Et il y allait, élant Daniel de la porte, car cet intérieur à bibelot lui levait le cœur. « Allons, arrivez, vous » faisait-il. « Allons !» « Marchez, vous !» Et Daniel, qui avait une idée peur du sans-culotte, arrivait, marchait, sans sonner le mot, trouvant tout de même un profit de santé à respirer de l'air du dehors aux côtés de ce garde-chiourme qui, par dédain, ne lui adressait pas la parole et, de retour, se contentait de dire à son frère « Voilà ton bourgeois remisé !» Une fois la semaine, Daniel se rendait rue Cassette, habituellement le soir après dîner. On faisait un peu de musique, on causait un peu sur le balcon, parmi les géraniums et les pétunias de notre campagne, qui, l'été aidant, étaient venus fleurir les plantes d'hiver. De temps en temps, on descendait ensemble au Luxembourg, et ici ou là, à 10 heures tapantes, on était sûr de voir apparaître Bérose, qui, sous couleur de ramener son ami, s'en venait rôdailler autour de Blanche. Alors celle-ci devenait rouge, rouge, avait comme des envies de pleurer, ne pleurait pas, et regardait tant qu'elle pouvait derrière les petites plumes sournoises de Cécile. On se rasseyait encore quelques minutes. Si c'était à la maison, monsieur Eugène commandait « Mesdemoiselles, offrez donc du thé à monsieur !» Phrase jésuite qui signifiait « Offrez donc à monsieur l'occasion de refuser le thé qui n'est pas fait et qu'on a nulle envie de faire. » Il disait aussi souvent « mademoiselle ». Mais que ce fût au pluriel ou au singulier qu'il parlât, c'était toujours Blanche qui se levait la première. « Prendrez-vous une tasse de thé, monsieur ?» Quoiqu'elle connût bien la réplique, elle ne la manquait jamais, cette question, pour avoir le plaisir de lui entendre répondre « Je vous remercie, non, mademoiselle. » Il avait une façon de prononcer cela. Après avoir bavardé de la pluie et du beau temps, on se souhaitait le bonsoir, Et tandis que, dans l'escalier, Bérose murmurait à l'oreille de Daniel « Quelle est gentille, ta petite cousine !» À l'antichambre, Blanche soupirait dans les cheveux fous de Cécile. « Qu'il est distingué, ce monsieur Bérose !»«
Distingué !
Oh, pouvoir des principes paternels !» C'était d'ailleurs le sentiment général. On le trouvait distingué, rue Cassette, monsieur Bérose. Celle-ci, parce qu'il soignait tellement bien Daniel. Celle-là, parce qu'il était homme de ménage. Celle-ci, c'était Cécile. Celle-là, madame Eugène, enchantée de lui voir connaître le prix du beurre et des poulets. Le médecin même ne lui faisait pas trop grise mine et convenait qu'il n'eût pas été dans le rouge et secrétaire de cette infâme revue Lorraine. Mon Dieu, à la rigueur, et puisqu'il avait des économies... Aussi bien, depuis la mort de son frère, M. Eugène avait un air déridé, mal d'accord avec le crêpe fort large qu'il portait au chapeau. Mais elle était survenue trop juste, cette mort, pour qu'il fût possible de lui en vouloir beaucoup. La cause, il croyait la connaître comme tout le monde, mieux que tout le monde. Peu lui importait au surplus, dès l'instant qu'il n'y avait pas eu de scandale. Ce qui le déridait, c'était la séparation de Jeanne et de Daniel. C'était l'héritage de Daniel. C'était le mariage de Daniel. Avec Cécile, naturellement. Lorsqu'il avait vu son neveu quitter la rue Malesherbes et sans idée de retour, sa satisfaction avait transpiré dans cette phrase presque aimable. « Je te prie, mon cher enfant, de considérer désormais ma maison comme la tienne. » Ce « cher enfant », il l'espérait bien, ne serait pas une vaine condoléance. Et à partir de ce moment, il fit tout pour que Daniel le devint en effet, l'invitant, le choyant, et ne reculant pas même devant la commande d'un plat fin chez un pâtissier cher. Quand, au bout de quelques semaines, Daniel accepta d'y venir dîner par-ci par-là. Ce n'était pas le gendre qu'il câlinait seulement, mais le prêteur, l'homme fait, qui, sitôt devenu son fils, moyennant une avance de fonds, que jamais sa fierté n'était descendue à emprunter de son frère, allait lui permettre de réaliser ses ambitions anciennes, d'ouvrir rue de la Paix son fameux grand cabinet de consultation pour les maladies de femmes, et, grâce aux bénéfices énormes et certains, de transformer sa vie, d'avoir voiture et campagne, de conduire madame Eugène aux eaux dont elle avait besoin depuis 20 ans, de marier enfin sa seconde fille dans la noblesse. Les projets de jadis avaient été tirés des armoires, époussetés, battus, mis à l'air. De ci, de là, des mots partaient, tout poudroyant de cet avenir fabuleux. Vers le milieu de juin, qui avait été très humide, le papier du salon ayant souffert d'une infiltration d'eau dans la muraille, le médecin remarqua qu'il pouvait encore aller. « Qui sait si l'on finira le bail ?» ajouta-t-il dans un sourire qui le savait fort bien. Une autre fois que madame Eugène déclarait qu'il n'y avait vraiment plus moyen avec une seule bonne, parce qu'étant seule chez elle, l'après-midi, Virginie au marché, elle avait dû ouvrir elle-même la porte à S.G., monseigneur de Chélu, évêque de Tyr, un cousin éloigné, dont les visites étaient aussi rares qu'honorables. Le médecin l'interrompit en ces termes « Patience, ça ne durera pas éternellement. » Cet épanouissement du maître avait répandu partout une sérénité surprenante. Madame Eugène avait des extases profondes, béatifiées, en regardant des choses loin dans elle. Le tarif proportionnel s'était sensiblement abaissé. L'espace d'un mois, il n'y eut qu'une seule privation de dessert, et rien que 4 heures, en 2 fois, de pénitence dans le coin. Même un soir que Bérose dînait, Bérose, qu'on continuait d'accueillir comme une manière de futur gendre, en cas ou de doublure, Blanche s'étant oubliée jusqu'à redemander tout haut pour lui de la mousse au chocolat, son père se borna à la punir d'un simple coup de menton. Aussi ne pleurait-elle presque plus, Blanche. Elle disait des petits mots qu'on entendait, qu'on distinguait à ne s'y pas tromper, à ne plus confondre comme avant. « Dieu vous bénisse !» avec « Je n'aime pas les épinards !» Si elle ne riait pas encore, il y avait de la pente, elle souriait. Était-ce cela ? Oui, ce ne pouvait être que cela, qui influait sur l'âge et le sérieux de Bérose. Il était en pleine mue, Bérose, en pleine métamorphose, à ne pas le reconnaître, tant il perdait chaque jour, presque chaque heure, de ses 60 ans, de ses airs débats. Une fois, il risqua une cravate bleue, bleu très foncé, mais bleu enfin, ce qui pensa faire sangloter Blanche de plaisir. Quelque temps après, il ne paraissait déjà plus guère que 35 ans et encore, ne s'oublia-t-il point jusqu'à lâcher un petit calembour, un très petit, mais un calembour enfin, que Blanche ne comprit pas, dont elle sourit quand même, et que le médecin, lui, n'entendit point, par bonheur, car ses sévères principes s'en fussent hérissés. Cela alla si loin que Madame Hervé, de la Moselle, scandalisée de ses façons, de ses vestons, dut lui dire, et pas seulement lui dire, mais lui répéter, « Faites attention, Bérose, vous rajeunissez, mon ami !»« Bah !» observa le journaliste en rapportant le mot à Daniel. « Après tout, je ne suis pas mariée avec la revue Lorraine, moi. Et c'est une veine, fichtre de fichtre, parce qu'à moins d'être bigame, et ça, je ne le voudrais jamais, je ne... Suffit, je me comprends. » Rue Cassette, maintenant, il n'y avait que Cécile qui fut d'œil, celle que Daniel appelait la petite rieuse. Cécile, qui ne riait plus, qui ne causait plus, et plus jamais dans ses fins cheveux cendrés n'allait piquer quelque chose. Cela datait du jour de l'enterrement et d'une certaine mauvaise, ah, bien mauvaise parole de Daniel, lorsque, lui voyant un chagrin si tragique et si sec, un regard si fou, un air si terrassé, devant ce trou béant qui avait englouti son père, au mépris des convenances, elle avait couru l'embrasser et lui faire très bas dans l'oreille « Courage, mon Dany !»« Non, je suis trop malheureux, » avait-il répondu. Et, en proie à l'insoucieux affaissement, à la déplaisance de tout qui accompagne des particulières catastrophes, il avait ajouté, l'ingrat, « Il ne me reste rien, Cécile, il ne me reste rien. » « Et moi ?» était le premier mot qui lui fut monté aux lèvres. C'était pourtant « et nous » qu'elle avait prononcé, ayant pressenti soudain de l'horrible et de l'irréparable au fond de cette mort, mise en regard de cet affreux amour dont elle doutait encore après l'avoir surpris. Avant cette phrase, elle espérait encore, Cécile. Pas beaucoup, mais elle espérait, enfin. Il en faut un si petit sachet d'espoir pour parfumer une petite âme de 20 ans. Ensuite, non. Et l'aspect de Daniel, ce masque de chagrin qui ne le quittait pas, son mutisme lourd, cette désappétissance des choses qui outrait les bornes de la douleur humaine, n'était pas de quoi lui rendre ses gaietés d'antan. Daniel était malheureux. Le moyen d'être heureuse, puisque le consoler, une voix secrète, lui disait qu'elle ne le pouvait plus. Du temps passa. Un soir du mois de juillet, que Daniel étant venu dîner, on attendait le vol au vent qui n'arrivait pas, Madame Eugène, toujours un peu courte de vue, fit en se tournant vers son neveu. « Mais tu es donc fâchée avec ta belle-mère ?» Sans apercevoir le coup de menton de son mari, elle continua très vite, dans une volubilité de femme qui ne cause pas souvent. « Nous avons été lui rendre visite aujourd'hui. Elle se plaint que... »« Si vous envoyez Virginie au lieu de parler pour ne rien dire... » interrompit le médecin de son air pion d'autrefois. « Il ne viendra pas tout seul, ce vol au vent, que vous avez soi-disant commandé. » Elle ne comprit pas encore, et, auparavant que d'envoyer Virginie, ajouta « La pauvre femme, tu n'as pas idée de ce qu'elle a maigri !» Depuis la mort de M. Ferdinand Levasseur, c'était la première fois qu'il était question de Jeanne en présence de Daniel. Suivant une consigne sévère, elle semblait n'exister plus. Elle existait pourtant. Mais combien brisée par l'impitoyable silence de son beau-fils. Lorsqu'il était parti, elle n'avait pas pu le retenir. Cette séparation s'imposait pour tout le monde. Que leur amour eût transpiré ou non, l'âge qu'ils avaient tous les deux rendait la vie en commun désormais impossible. Elle l'avait bien reconnu et s'y était résignée, très loin de croire qu'il ne reviendrait pas, mettant au contraire dans l'avenir un acharnement de confiance incroyable. De dures journées avaient suivi. Seule avec elle-même, son âme droite par nature, que la passion avait gauchie, qu'elle gauchirait encore, c'était comme redressée dans l'horreur de cette mort, dont elle s'accusait plus justement que Daniel. Pendant des semaines, elle était restée anéantie de honte, sinon de chagrin, ne recevant personne, endurant un vrai martyre de conscience, au ressouvenir du guet-apens qui était son œuvre, de ce guet-apens qui avait frappé un autre que ceux qu'il visait, et de l'abominable et involontaire joie qu'elle avait ressentie en voyant tomber celui qui ne devait pas tomber seul. Un moment même, cette vie où elle ne comptait pas, que le hasard d'une apoplexie lui avait laissée, lui était apparu comme une espèce de vol. Et découragée, plus aussi sûre de Daniel qu'elle l'était les premiers jours, elle avait essayé de la reprendre. Mais c'est moins facile qu'on ne pense de mourir. Le corps résiste, l'âme se raccroche. Il faut lutter contre ces deux réunis. Et il est rare que lui ou elle ne trouve pas sur ce bord qu'ils voulaient quitter ensemble une raison quelconque de ne le quitter pas. La raison, ce fut Daniel. Elle patienta encore. Puis, comme il ne venait pas, et que les désirs d'avant, cette première armée fourmillante et cuisante, s'étaient de nouveau remis en route dans ses veines, un matin de la fin de juillet, elle se décida à écrire. Le jour suivant, sa lettre lui revenait, pas ouverte. Alors, la bête luxurieuse et folle qui la possédait rompit sa chaîne. Deux nuits, elle tenta de s'introduire rue Jean Bar. L'une en achetant Gertrude, dont les scrupules religieux se révoltèrent et qui la dénonça. L'autre en crochetant la porte. Bérose, qui rentrait, l'obligea de redescendre. Il n'eut qu'à paraître, d'ailleurs. Elle se laissa conduire en bas comme une enfant, sans répliquer que par des larmes au « Je vous en prie, madame, je vous en prie, madame » du journaliste. À quelques jours de là, étant allé rue Cassette, Daniel trouva la maison en émoi. Madame Eugène ne tenait pas sur place, se levait, les yeux rouges par hasard, semblait guetter quelqu'un ou quelque chose, puis revenait s'asseoir, puis repartait encore, et c'était des soupirs, des yeux au ciel, des « mon Dieu !» Cécile même, cette petite créature d'équilibre, qui, dans sa pardonnante tendresse, afin que Daniel n'eût pas encore à souffrir de la voir souffrir, recommençait de se maquiller d'un peu de bonne humeur et d'entrain, n'était point du tout aux questions que son cousin lui faisait sur ce qui les agitait si fort, elle si calme d'habitude. On eût dit qu'elle écoutait ailleurs des voix d'esprit, un Ariel mystérieux qu'elle était seule à entendre. « C'est papa que nous attendons, » répliqua-t-elle enfin, après bon nombre de quiproquos plus ou moins involontaires. « Est-ce que mon oncle est malade ?»« Non, pas lui. » Il eut envie de demander « Qui donc alors ?» Mais tout à coup, d'un tas de petits indices, lumineux parce qu'ils étaient rassemblés, une lueur sortit. Cette malade, qu'on ne nommait point, c'était Jeanne. Et il fut surpris lui-même, presque honteux, du trouble que cela jeta dans son être. Lorsque, vers 10 heures, le médecin n'étant pas rentré, Daniel, qui l'attendait avec une anxiété poignante sans qu'il osât pourtant adresser d'autres questions, souhaita le bonsoir à sa tante. Celle-ci, n'en pouvant plus de silence, lui dit entre bas et haut « C'est ta belle-mère. Tu savais, elle est très malade. » Et cette phrase l'attendrit si fort qu'elle embrassa, qu'elle inonda son neveu, ce qu'elle ne faisait qu'aux grandes occasions. Dehors, Daniel eut un violent désir d'aller s'informer rue Malesherbes. Il poussa même jusqu'au quai, et, pour se punir de cette faiblesse, encore que le ciel fût clair cette nuit-là, il se priva d'étoiles. Mais dès le matin, une fièvre d'angoisse changea en besoin le désir de la veille, et il retourna chez son oncle, n'osant point réfléchir à ce dont il serait capable s'il ne le rencontrait pas. Ce fut Cécile qui vint ouvrir, Virginie ayant donné ses 8 jours. « Ah, c'est toi ? » dit-elle en lui tendant la main, car depuis bien longtemps, elle ne lui tendait plus la joue. « Mon oncle est là ?»« Oui, papa rentre à la minute. » Et après un silence, elle ajouta « Ma tante n'est pas bien. Elle voudrait te voir. »«
Me voir ?»
répéta Daniel, qui sentit soudain un grand froid lui parcourir le sang. « Oui, avant de mourir. »«
Mourir ?»
Il regarda Cécile, l'air insensé, et il prononça encore « Mourir ?» ne paraissant pas comprendre toute la valeur de ce mot. Puis il eut un tremblement et demanda d'une voix qui avait peur « Est-ce qu'il faut... vraiment, il faut... » Elle répondit fort, comme si elle avait craint qu'il n'entendît autre chose. Les bonds de son pauvre cœur révoltés. « Oui, Daniel, il faut. Papa va t'expliquer. » acheva-t-elle en lui prenant le bras pour le mener chez son père. Monsieur Eugène, assis à son bureau, prenait des notes d'après un formulaire magistral. Il se leva aussitôt et, ayant caché notes et formulaires sous un journal de médecine, renvoyé sa fille d'un coup de menton, il secoua presque chaleureusement les mains de son neveu. Puis, en phrase de manuel, il le mit au courant. Jeanne avait une fièvre typhoïde, qui, légèrement prise au début par son médecin ordinaire, le docteur Blavier de l'Hôtel-Dieu, un vrai âne, comme les 4/5 de ses grands médecins, n'avait plus tardé à revêtir un caractère alarmant. C'était seulement la veille au soir que Joseph était venu l'appeler de la part de sa maîtresse. Le temps de renvoyer ses consultations et d'y courir, Jeanne était au plus bas. Il ne lui en avait pas moins, d'accord avec son confrère, administré un grand bain froid. Malheureusement, c'était déjà le 8e jour. Après une première réaction salutaire, les accidents d'otiénentérique s'étaient reproduits, accompagnés d'ataxie, météorisme, hémorragie intestinale, phlegmasia, etc. Bref, il redoutait un dénouement fatal. Aussi avait-il prévenu M. Féliza, installé 2 sœurs de bon secours. Peut-être même ferait-il veiller sa femme la nuit prochaine. « Ah, mon confrère est bien coupable, » dit-il pour finir. Et Daniel, l'interrogeant du regard sans pouvoir articuler un mot, il répondit « Oui, comme médecin, je t'engage à y aller. Nous irons ensemble, si tu veux, puisqu'il faut que j'y retourne. Après tout, je ne te force pas. » Ajouta-t-il en se frottant les mains, extrêmement flatté, au fond, que Jeanne l'eût fait chercher. Daniel hésita le reste de l'après-midi. Vers le soir, Bérose, consultée, lui ayant dit « Va !» Il s'y achemina lentement et le cœur mal tranquille. Mais, arrivé au coin de la rue de Madrid, la vue de cette petite porte, devant laquelle il n'était jamais passé depuis que son père y était mort, lui donna une secousse telle que peu s'en fallut qu'il ne revînt sur ses pas. Tout ce qu'il put faire, ce fut de traverser vite le lit de paille fraîche répandu au carrefour et de s'appuyer contre la grille en pleurant, car cette paille lui disait que Jeanne allait mourir. C'était une soirée d'août si ardente que le ciel, embrasé d'astres, fumait. Un silence d'épidémie enveloppait le quartier vide, et les moindres rumeurs de l'hôtel prenaient une valeur de bruit. Des portes, des fenêtres battaient. Il y avait des appels, des pas qui traversaient la cour, des galops qui montaient les escaliers, avec cette hâte affairée et chuchotante des dernières heures. Au travers des volets de fonte, Daniel ne distinguait rien que des clartés qui allaient, allumant puis éteignant des fenêtres. Et ce vol de lumière, ses venues, ses murmures, le hochaient comme un grand vent. La revoir ainsi, lui montrer ses larmes, lui faire toucher son angoisse, autant d'outrage encore à la mémoire de son père. Non, ce n'était pas possible. Un domestique étant sorti en courant, il profita de l'entrebâillement de la porte pour glisser un peu de son regard vers les fenêtres de Jeanne. Celle de droite était ouverte, et dans l'une des deux ombres qui causaient, accoudées au balcon, il reconnut son oncle. Quand le valet revint au bout de quelques minutes, portant de la glace sur une assiette, Daniel voulut lui demander des nouvelles. Mais le temps qu'il mit à construire sa question dans sa tête, la porte était déjà refermée. Alors il pensa à entrer, puisqu'elle allait mourir. Et ayant épongé ses yeux, il allongeait la main vers le bouton de sonnette quand son oncle parut. « Non, pas maintenant, » fit-il. « Elle dort. Elle est un peu mieux. » Et il lui conta que jusqu'à 9 heures, elle l'avait attendue, assez calme, entre 36 et 37 degrés au thermomètre. Puis la chaleur de peau s'était sensiblement accrue. Il s'était produit une sorte de métastase avec tétanos, délire, etc. Elle s'était mise à appeler « Daniel, Daniel », disant qu'elle l'entendait marcher dans la rue. « Effectivement, » continua le médecin, « j'ai regardé, je t'ai vu. » C'est un cas remarquable de cette acuité perceptive qui, lorsque j'étais interne à la Pitié... « Est-ce que ma tante est là ?» interrompit Daniel. « Oui, elle passera la nuit avec mademoiselle Ninise. Monsieur Félisas, lui, est parti tout de suite quand il a vu les bonnes sœurs. Oh, ces libres penseurs, quelle race! Mais je crois plutôt qu'il avait peur d'attraper la maladie. » Le lendemain soir, lorsque son neveu arriva rue Cassette, le médecin l'accueillit par ces mots triomphants. « Elle est hors de danger !» Ah, elle me doit un fameux cierge, car avec mon âne de confrère... » La nouvelle de cette guérison imprévue fut un coup de foudre pour Daniel. Il s'était presque habitué à l'idée rassurante de cette mort. Sans la désirer, certes, il n'y répugnait pas, tant il doutait encore de lui-même. Et cela l'épouvanta de savoir Jeanne vivante, Jeanne, que ces derniers jours, uniquement remplis d'elle, avait enfoncé plus avant que jamais dans les profondeurs de sa faiblesse. Dès lors, ce fut fini du travail, fini de ce repos de conscience qu'il commençait à goûter, fini des regards en haut vers l'étoile. Un sentiment, mal défini, mais fort, mais jaloux, mais implacable, l'occupa. C'était comme une peau qui le couvrait exactement. Une autre âme qui enveloppait son âme. Il voyait Jeanne partout. Les cellules de son corps, les recoins de son esprit, semblaient autant de miroirs qui la réverbéraient. Pas un de ses sens, pas une de ses pensées qui ne vibra d'elle, des inflexions de sa voix, de son odeur de verveine, de l'attouchement pelucheux de ses mains, des manières, des tournures de phrases qu'elle avait, lui chatouillaient sans répit la mémoire. Puis vinrent des tentations obsédantes et des peurs, les peurs jalouses de jadis, qui s'exaspéraient davantage dans le silence de consigne, encore une fois chez le médecin. Elle avait un amant, des amants, et lui ne pouvait rien, puisque son père n'était plus. Alors il s'attaqua à sa chair, la combattit avec des armes d'ascète, des cruautés de stylite, jeûnant et veillant des semaines, la tuant de privations et de fatigues, malgré Bérose, malgré Gertrude, dont il savait tromper les vigilances attentives. Celle-ci, un matin qu'elle le voyait pleurer à table, insensible aux odorantes séductions d'une friture, digne des gourmandises du Sulpicien, son feu maître, se récria longuement dans sa langue cocasse. Est-ce que cela avait du bon sens, de ne vouloir rien avaler et de se faire des chagrins pareils parce que son père était mort? Elle aussi, elle avait perdu son père, le pauvre cher homme. Elle n'en avait pas moins, le lendemain, dormi et mangé son content. Encore qu'elle l'aimât bien, et qu'il lui eût juste laissé les deux yeux pour pleurer. Cela lui avait même coûté bien des 100 francs pour le mettre en terre, à cause que c'était Prussien aujourd'hui par chez eux, et qu'il avait fallu ramener le corps dans le pays de sa mère, une Meusienne. À quoi cela servait-il de se désoler, puisqu'on se retrouvait, n'est-ce pas, au paradis de notre Seigneur? Mais voilà, monsieur n'y croyait pas, lui, au paradis de notre Seigneur. Et après 2 ou 3 morceaux d'évangile, elle finit « En gonze et ganse, monsieur adore de ne pas foire aux religions. Si monsieur, il aurait eu religion ?»« La religion, » pensa Daniel, « celle de la chérie, celle de Cécile. » Toute l'après-midi, cette idée le hanta. Et le soir, il entra dans une église, mais la foi lui manquait, et il en sortit plus vide, comme si ce vain essai l'eût encore diminué. L'aumônier lui fut d'un meilleur secours. Il y donna ses journées, glanant par les rues des misères, allant de préférence aux très petits, à ces guenilles blondes qui courent pieds nus dans la boue de la vie et la crotte des chemins. C'étaient les plus indignes, les plus tombées qui l'attiraient davantage. Il les confessait, s'informait d'eux ensuite, et les ayant sortis du ruisseau, il les plaçait dans des maisons de refuge, où il allait les voir, comme s'ils étaient ses enfants. Puis cela aussi le lassa. L'homme est fait d'une si vile matière qu'il se fatigue de même du bien. Il essaya de se reprendre à son art, de renouer commerce avec ses anciens amis, les chefs-d'œuvre, et cet autre, éternel et serein, la nature, qui les enveloppe et les dépasse. Mais Jeanne était partout, et son souvenir l'emprisonnait. Ce fut à cette époque qu'il rencontra Joseph, et que, le croyant resté rue Malesherbes, il l'arrêta lâchement. Comme il s'informait de sa belle-mère, le valet de chambre s'exclama « Monsieur ne savait donc pas qu'il en avait quitté ?» Pas pour de mauvaises raisons, c'était rapport à son asthme. Il s'était retiré du service, et mangeait au jour d'aujourd'hui ses 4 sous à rien faire qu'un petit estra par-ci par l'autre. Mais il regrettait bien la maison. « Fou, Matisse » acheva-t-il, « une fière place chez la belle-mère de monsieur. Mon remplaçant ne se plaint pas. Madame ne sort pas, madame ne reçoit pas. Dommage qu'elle soit tombée sur de la chenillerie. Ce n'est pas parce que, je le connais, mais je peux certifier à monsieur que celui qui me remplace, ça n'est pas autre chose que de la chenillerie. D'ailleurs, il n'y a plus que de ça à présent, et je ne voudrais pas être maître, non. » Vers la fin d'août, Bérose, qui prenait 15 jours de congé, et sous prétexte qu'il avait besoin des bains de mer, y emmenait son sans-culotte, auquel on les ordonnait, tenta vainement d'y entraîner son malade. « Ça te fera du bien, je te dis, » lui répétait-il. « C'est ruisselant d'inouïsme, l'océan. On part maigre comme un coucou et on revient gras comme une sardine. À l'huile. » « Non, » répondit Daniel, « je gênerai. » La maison lui sembla alors terriblement solitaire, sans ses bons jours à travers la cloison, ce bruyant entresort de visite, cette chaleur d'entour dont les deux frères l'environnaient. Heureusement que la besogne des notaires achevée lui donna quelque répit en l'arrachant à lui-même. Il s'agissait de déterminer l'emploi de sa part d'héritage. Ce fut vite fait. 3 millions servirent à fonder dans la banlieue parisienne une maison de retraite pour les hommes sous le titre de « Hospice Levasseur ». Le reste alla enrichir d'autres œuvres, sauf une rente destinée au prix de Rome besogneux et une dot de 100 000 francs pour chacune de ses cousines. Lorsqu'il apporta rue Cassette les 2 titres, au nom de Cécile et de Blanche, comme un fidéicommis d'intention oublié dans le testament de son père, le médecin lui ouvrit ses grands bras. Mais, toujours sec et pion, jusqu'en ses rares accès de tendresse, il garda haut la tête. Et seul, Daniel effleura de sa bouche les poils rudes d'une barbe de la veille. Puis, se rasseyant après lecture des pièces, monsieur Eugène fit. « Mais comment ? Comment ? Il y en a donc deux ? Blanche, je comprends. Mais Cécile, à quoi bon, puisque vous allez vous marier ? Car tu attends la fin de ton deuil, n'est-ce pas ? » Mais Daniel, ayant dit l'usage de sa fortune et terminé par ces mots « Il me reste une dizaine de mille livres de rente, je crois que Cécile peut trouver mieux. » Son oncle prit un air très froid pour répondre « Ah, je ne savais pas. C'est très beau ce que tu as fait là. Très beau. 3 millions à un hôpital. Peste !» Et d'un ton vipérin, il finit par cette petite phrase toute barbelée des colères d'un furieux mécompte. « Laïque, probablement. » À l'opposé des effusions de Fontaine, de Blanche et de sa mère, qui firent toutes deux la plus singulière salade de rires et de sanglots, Cécile eut la reconnaissance sérieuse, presque solennelle. Elle emmena Daniel dans son allée, qui avait maintenant un berceau de capucine, et lui prenant les deux mains d'un joli geste qui les mit face à face, elle dit « Merci, Daniel. Merci pour papa et pour maman. Car moi, tu comprends, je n'ai plus besoin de dot. » Et deux petites perles tremblèrent à la pointe de ses cils abaissés. Il ne répondit rien. Qu'aurait-il répondu, en effet? Avant la mort de son père, il aurait pu l'épouser. Il y avait même songé un instant, rêvant de la faire heureuse, elle du moins. Mais aujourd'hui, qu'eût-il donc donné de lui qui en valut la peine? Et il se contenta de serrer ses doigts bien fort, mettant tous ses regrets, toute sa pitié, dans cette étreinte muette. Lentement alors, elle secoua les épaules et murmura « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ?» À partir de ce jour, les attentions de monsieur Eugène cessèrent brusquement. S'il fallait se gêner avec son neveu, devint une sorte de ritournelle dans ses phrases. Aussi ne se gênait-il plus, parlant sans cesse de Jeanne, qu'il continuait de soigner, ayant pour elle des prévenances de tant à héritage, l'appelant sa belle malade ou sa chère belle-sœur, d'une voix confite en indulgent respect, rendant justice à la parfaite convenance de son deuil et ce qu'il appelait ses « sentiments profondément religieux », depuis que, sur ces instances, il oubliait volontiers de bien autres instances, celle de la mort, la grande convertisseuse. Elle avait reçu, avec quelle foi, les sacrements derniers. Pauvre femme, si elle a été quelquefois un peu inconséquente, elle est plus à plaindre qu'à blâmer, disait-il. Ferdinand l'a rendue si malheureuse. Il invitait bien encore de loin en loin Daniel, mais c'était sans cérémonie, à la fortune du pot. Et lorsque sa femme s'excusait d'un beurre fort ou d'un rôti manqué, il la faisait taire d'un coup de menton, ajoutant que le petit Mozart n'avait plus le moyen d'être si difficile. Eh, mon Dieu, mangeait-il si bien que cela chez lui à présent? Un soir, s'adressant à son neveu, il annonça « J'envoie ta belle-mère à Biarritz pour la remettre. » Elle quitte Paris la semaine prochaine. » Daniel fut atterré. Il n'avait pas pensé qu'elle pourrait partir. La savoir là, près de lui, le rassurait un peu, s'imaginant même que sa présence était une garantie, qu'elle n'oserait pas mal faire en cette ville qu'il habitait avec elle, en cette maison toute chaude de souvenirs. Il lui était loisible de la surveiller au besoin. Il y avait quelque temps déjà qu'il rôdait des journées autour de la rue Malesherbes, dans une conviction de devoir respectable à force d'être vrai, persuadé d'accomplir une mission que son père approuvait, son père, dont il croyait garder l'honneur, quand il ne gardait que son amour jaloux. Tandis que là-bas, il pensa à la suivre, et eut une telle frayeur de ne pouvoir être fort contre cet assaut d'envie, qu'afin de s'en ôter les moyens, il plaça sur la tête de ses enfants le peu qui lui restait d'argent libre. Puis, remparé par cette misère, il se donna permission de la revoir une fois. Trois fois de suite, il s'en fut la gaieté rue d'enfer. Comme elle n'y vint pas, le quatrième, il se décida à entrer pour l'attendre. Jeanne s'embarquait le lendemain. Il le savait par son oncle. Force lui était donc de faire ses adieux. C'était par une soirée de septembre, immobile et terne, avec un chaos de nuages couleur de rouille suspendus, à ce point menaçants et lourds qu'involontairement on pensait s'ils allaient tomber. Dans le petit jardin, dont les lilas étaient déjà grillés, les quatre enfants goûtaient, assis par rang de taille sur le banc vert, et à travers la porte de la cuisine ouverte venait un broiement juteux de lessive. Daniel, qui s'était accoudé au treillage, rêvait, le cœur imbibé de souvenirs. Depuis sa rupture avec Jeanne, crainte de l'y rencontrer ou des odeurs d'elle, il n'était pas venu là. Il n'avait pas aperçu ce petit tableau d'ostade que l'automne prochain blondissait. Rien que du blond. Blondes les murailles, blonds les feuillages et les gazons et les allées et les bambins. Il n'était jusqu'à la lumière, jusqu'au bruit. L'écrasement du linge savonneux, parfois un clink-clang de cloche, une voix d'artiste chantant, les recommençantes roulades du canari dans sa cage, le bin-bin d'un ciseau à sculpter, jusqu'au parfum d'herbes et de roses qui n'eussent cet aspect d'être blond. Et puis elle avait grandi, là. Elle y avait laissé comme une traînée de sa vie. C'était sa sœur qui l'entendait là-dedans, et elle allait venir. « Ninise !» appela soudain l'une des petites filles. « Un monsieur qui est là !» Ce fut la poule qui sortit la première, avec des cric-cric rageurs d'être dérangée d'un festin d'épluchure. Puis la voix de Ninine disant « Qui c'est, Mélie ?» Puis Ninise elle-même, jupe troussée, bras nus et gantée jusqu'aux épaules d'une mousse blanche, elle mit sa main sur ses yeux, et, reconnaissant Daniel, vite elle rentra pour reparaître sans retroussis, sans bras nus, sans mousse blanche. « Vous le faites donc exprès de choisir le jour que je savonne ?» dit-elle, l'accueillant comme s'il était venu la veille. Elle lui proposa d'entrer au salon. Daniel ayant refusé, ils se promenèrent dans l'allée, autour du massif très haut planté de roses trémières. « Et Jeanne ? » demanda-t-elle. « Pourquoi donc que vous n'êtes pas venue avec ? Elle a écrit à père qu'elle viendrait nous dire à revoir ce tantôt. » Daniel se taisait. Alors sa vagabonde cervelle d'innocente s'envola vers une autre idée. « Hein ? Vous trouvez pas qu'elle a une drôle de mine ?» Et mystérieusement, elle lui confia que sa sœur avait de l'amitié pour quelqu'un qui lui cherchait des misères. Elle termina sa confidence par ces mots augmentés d'un geste de silence. « Mais faut pas le dire, surtout !»« Et vous, Ninise ?» interrogea Daniel qui se sentait maudir. « Elle ? Oh, cela boulottait toujours à peu près, de l'un et de l'autre, mais plus de pain que de beurre, comme dans tout. » Puis, au hasard de ses pensées, elle lui raconta que M. Sheridan étant mort, elle avait dû adopter les petiotes, ce qui lui donnait joliment de l'ouvrage. Père avait crié. Tant pis, il était enragé pour lui faire prendre une bonne, mais elle aimait mieux être seule. Chacun son idée, n'est-ce pas? On sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on prend. Bah, en se levant matin... Seulement, dame, la lecture, ça n'allait pas raide. Elle en était toujours sur le fin, et M. Georges qui ne voulait pas lui écrire avant qu'elle ne connût sa petite lettre sur le bout de l'ongle. Elle s'interrompit pour crier. « Que je te vois cueillir mes roses, grand Jojo !» Ayant tiré de sa poche un sucre d'orge enveloppé, elle en offrit à Daniel. « C'est M. Georges qui me l'a fait cadeau. dit-elle avec une petite flamme d'orgueil qui creusa ses bons yeux. Comme il la remerciait, elle en cassa dans ses dents pour chacun de ses marmots, donna le reste au plus grand et se contenta, elle, de lécher longtemps le bout de ses doigts et ses lèvres. « Au revoir, Ninise, » fit Daniel, désespérant de voir Jeanne encore ce jour-là. « Vous vous en retournez déjà ? Père est à sa brasserie, il aura bien du regret. » Elle lui offrit ses joues qu'il n'osa point refuser. Au même moment, un pas léger traversa la cour et une longue forme noire parut derrière la claire-voie. « C'est sa sœur !» dit tout bas Ninise. « Hein ? Est-elle belle comme ça en deuil ? Non, c'est quelque chose !» Une idée farce lui vint. « Attendez que je me cache, vous direz que Ninise est à la campagne !» Et elle se sauva dans la maison, suivie de sa petite poule. En apercevant Daniel, Jeanne s'était arrêtée derrière la haie de lilas, qui ne laissait voir d'elle que sa tête pâle, coiffée de la capote à passe blanche des veuves, sous le voile de crêpe pendant par gros plis lourds. Et c'était un charme de plus, ce rideau noir, qui blanchissait sa peau d'une lueur d'apparition. Elle le releva, et ses yeux verts, qui avaient l'insoutenable éclat d'un glacier au soleil, fondirent sur Daniel, cloué sur place et frissonnant. Ce furent d'abord des œillades colères, puis une pitié mouilla son regard, lorsque, dans ce visage limé, décoloré, avec des luisants d'usure et des poches d'encre sous les orbites, elle eut compté, comme dans un miroir, les blessures que ces derniers mois lui avaient faites, à elle-même. Et, étant sortie de derrière la haie, ce qui parut la grandir, elle marcha vers Daniel. Lui n'avait pas fait un mouvement. Il l'admirait. Il l'adorait. Cela éclatait tellement qu'elle le crut conquis, et s'approchant, « Veux-tu revenir maintenant, Danny ?» lui dit-elle. Il secoua la tête et se retira d'un grand pas en arrière. Elle avança d'autant et continua d'un ton haché, fiévreux. « Non, ne me réponds pas ce soir. Je te donne jusqu'à demain. Tu sais que je pars. Je vais à Biarritz. On t'a dit. Mais si demain, avant 7 heures, tu n'es pas rue Malesherbes, tu le regretteras, je te jure. » Puis, d'une voix mauvaise, éclairée d'un inquiétant sourire, « Ne l'oublie pas, je suis fille de la Kreutzer et de père inconnu, » finit-elle, tandis que lui se sauvait d'une marche ondoyante d'homme ivre, ce qui amusa beaucoup les petites filles. Si la somme, si la grandeur des chagrins est quelque part mise en balance avec la somme, avec la grandeur des chutes, le surcroît d'épreuves que cet homme porta dans la nuit qui suivit doit laisser loin le chiffre de ses défaites. Il le porta sans faiblir, et quand sonna le lendemain l'heure du départ de Jeanne, sa chair put crier, son cœur battre, sa droite pensée n'eut pas une défaillance, encore qu'il sût bien pourquoi elle partait. D'ailleurs, elle eut soin qu'il ne l'ignorât pas. Moins de 15 jours après, Daniel recevait de Biarritz une « Gazette de la plage » qui, entre le rendu compte d'une fête au casino et le procès-verbal d'une rencontre à l'épée sur la frontière d'Espagne, annonçait que le steam yacht « Nayada » appartenant à « Monsieur R. de TB » avait quitté la veille au soir le port de Bayonne. Une main haineuse avait souligné d'un trait rouge ces derniers mots de l'article. Passagère, la belle Madame Levasseur, destination probable, Cythère. Et en guise de signature, un large cachet de cire écartelé d'un « toujours plus » que Daniel connaissait bien. L'automne s'écoula sans qu'on entendît parler de la Nayada ni de celle qu'elle avait à son bord. Elle semblait morte pour le monde, la belle Madame Levasseur. De tout ce temps, son nom, ce nom si éclatant hier, déjà presque oublié, ne parut pas une fois dans les échos, dans les carnets parisiens, que 4 années durant elle avait rempli de ses chatoyantes conquêtes, et où maintenant la belle Madame Street trônait seule en vedette, jusqu'au jour que la jeune étoile se lèverait qui enverrait cet astre à son dernier quartier rejoindre les vieilles lunes et les grâces anciennes. Les beautés vont vite, comme dit l'autre. L'hôtel de la rue Malesherbes était clos et vide, sauf un concierge, qui ne savait ou ne voulait rien savoir que ce qu'un écriteau disait au sommet de la grille « Hôtel à vendre ». Ni comme médecin, ni comme beau-frère, Monsieur Eugène n'avait de nouvelles de Jeanne. Et, particulièrement vexé du dédaigneux silence de sa belle malade et de sa chère belle-sœur, il n'en ouvrait plus la bouche. Aussi bien, il avait d'autres affaires en tête. Le grand cabinet de consultation pour les maladies de femmes venait de s'établir au 1er rue de la Paix, espérant tirer profit du voisinage d'un grand cabinet rival. Le meuble et les annonces avaient déjà mangé la dot de Cécile, et quelque chose avec. Quand, un matin du mois de décembre que Daniel travaillait au piano, entra Gertrude, qui lui remit une lettre. Elle portait le timbre de Nice, et il n'en reconnut pas d'abord l'écriture. Mais, comme il la maniait, une certaine odeur de verveine lui pénétra les narines. Froidement alors, il la jeta au feu. Ce fut une règle, désormais. Il brûla, sans les ouvrir, lettres et journaux de provenance suspecte. Et, lorsque, 2 mois plus tard, une grande feuille du matin lança, sous la signature célèbre de Pompon, l'entrefilé suivant, « Ride te veneres, cupidinesque ». Nous apprenons que le merveilleux hôtel Basilef vient d'être acquis par une de nos plus jolies mondaines, dont la disparition, etc., etc. Nous avons nommé la belle Madame Levasseur, qui est en train d'y dépenser des sommes folles afin de le rendre digne d'enchasser, au printemps prochain, sa magnificence. Ce sera, dit-on, princier. L'éloquence de ces 3 points mit tout Paris, sauf M. Eugène qui ne lisait que le Monde et Daniel qui ne lisait rien, au fait de la liaison déjà fameuse à Nice de S.A.R.I., Monseigneur le Prince de Chypre, avec celle qu'on appellerait bientôt la Levasseur.